Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est tout pile 22h, vous êtes sur Europe 1.
Il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée. Mais j'ai bien précisé qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps.
Les syndicats veulent croire à un plan B pour sauver leur usine de Béthune. Réunion de crise cet après-midi avec deux ministres face à une direction de Bridgestone soufflant le chaud et le froid. À peine achevé, le Tour de France de nouveau confronté aux soupçons de dopage. Une équipe française est visée. Deux de ses membres sont ce soir en garde à vue. Est-ce bientôt la fin de la galère pour se faire tester? Sept nouveaux centres de dépistage ont ouvert aujourd'hui en Île-de-France. La promesse, moins de temps d'attente et des résultats rapides. Dans ce journal également, la colère des 800 000 madrilènes qui ont reçu l'ordre aujourd'hui de se confiner à nouveau. Une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature, c'est loin de faire l'unanimité. Et puis la disparition d'un acteur aussi discret dans la vie qu'imposant à l'écran, Michael Lonsdal, nous a quittés. Il avait 89 ans. Le temps de demain, soleil au nord, pluie et orage au sud, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en forte baisse, moins 3,74% à 4 949 points. Grosse chute également sur les autres places financières européennes. Les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview Écho, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Eric Schulz, spécialiste de l'aéronautique et ancien directeur commercial d'Airbus. L'avionneur veut faire voler un appareil à hydrogène en 2035. Est-ce crédible? Réponse dans 20 minutes. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les négociations ont donc débuté cet après-midi entre le gouvernement et Bridgestone. Réunion de crise avec autour de la table à Béthune, syndicats, élus locaux et les ministres du Travail et de l'Industrie. La direction du numéro 1 mondial du pneumatique était-elle en visioconférence? L'histoire ne dit pas si c'était par crainte du Covid ou par peur de la réaction des quelques 900 salariés qu'elle compte licencier. Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant sur place. L'enseignement de cette journée, c'est que le dialogue n'est pas complètement rompu.
Bah oui, effectivement, c'est le sentiment que l'on a, parce que même si Bridgestone considère que la fermeture de son usine de Béthune est le seul moyen de rester compétitif en Europe, le groupe se dit prêt maintenant à étudier d'autres solutions, d'autres scénarios alternatifs, comme l'on dit, à cette fermeture de l'usine. C'est ce que veut retenir Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.
Ils ont étudié un projet d'investissement sur le site de 160 millions d'euros, en imaginant même des financements publics à 30%, 50%, 70%. Donc on leur a dit, vous nous les proposez. On va dire oui pour cofinancer, et dans ces cas-là, vous les remettez sur la table. Réponse dans 15 jours. 15 jours, on saura s'ils se foutent de nous ou s'ils veulent vraiment trouver une solution.
Alors évidemment, rien ne garantit que le géant japonais du pneu sera prêt à investir massivement pour sauver le site de Béthune. Mais la mobilisation politique permettra peut-être d'éviter le pire. C'est le mince espoir de Bruno Wable, délégué CGT.
L'espoir, oui, on va le garder, c'est clair. Même si qu'il est minime, il est clair qu'on va le garder. Mais j'ai bien précisé non plus qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps. Puisqu'on connaît quand même cette direction de Bridgestone, comment elle opère. Mais il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée, donc on se raccroche là-dessus.
Mais 5 jours après l'annonce de la fermeture, on sent encore des salariés avec les nerfs à fleur de peau, confidence d'un responsable syndical. Pour l'instant, on arrive à les canaliser, mais attention, la colère pourrait éclater.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. A noter que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera l'invité demain à 8h15 de Sonia Mabrouk. Les vélos ont à peine eu le temps d'être remisés que des soupçons de dopage surgissent au lendemain de l'arrivée du Tour de France. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille après la découverte au cours d'une perquisition de nombreux médicaments et surtout d'une méthode pouvant être qualifiée de dopante. Deux membres de l'équipe en question sont actuellement en garde à vue. Équipe française, Axel May.
Oui, il s'agit de l'équipe Arkea Samsic, équipe implantée en Bretagne, habituée du Tour de France ces dernières années et qui a doublé son budget cette saison pour recruter Nairo Quintana. Le Colombien visait le podium sur le Tour, il s'est écroulé pour terminer 17e. Lui et son frère d'ailleurs ont été entendus librement, mais les enquêteurs ont placé en garde à vue deux membres de l'encadrement médical. Il s'agirait d'un médecin et d'un kiné. La direction d'Arkea Samsic assure tomber des nues, n'être au courant de rien. Si l'information avait commencé à fuiter hier, le parquet de Marseille a attendu en tout cas la fin du Tour pour publier un communiqué dans lequel il précise que seule une petite partie de l'équipe est concernée. De nombreux produits de santé, dont des médicaments, ont été découverts lors de la perquisition qui a été effectuée à l'hôtel de la formation Arkea Samsic la semaine dernière. nucléaire, découverte aussi d'une méthode pouvant, je cite, être qualifiée de dopante, sans davantage de précision, de quoi attiser la curiosité des uns et des autres, après une grande boucle où les performances de certains coureurs ont laissé dubitatif.
Axel May, ils nous ont fait cruellement défaut au printemps. Nous sommes aujourd'hui victimes de leur succès. La ruée sur les tests rend la situation ingérable dans les labos des grandes villes. Vous l'avez peut-être constaté vous-même. File d'attente interminable, résultats qui tardent à arriver. Voilà pourquoi l'ARS d'Île-de-France a ouvert ce matin 7 centres de dépistage et de diagnostic dans la région. Victor Delande, vous avez visité l'un d'entre eux. Les objectifs sont clairs. Ces nouveaux centres doivent permettre de faciliter l'accès aux tests, mais aussi d'obtenir des résultats plus rapidement pour les personnes prioritaires.
Oui, c'était l'un des objectifs fixés par le ministre de la Santé, Olivier Véran, la semaine dernière. Ne surtout pas laisser les personnes avec des symptômes et les cas contacts pendant plusieurs jours sans résultat, plusieurs jours pendant lesquels ils peuvent potentiellement contaminer d'autres personnes. Et depuis ce matin, donc, ce sont les patients qui ont des symptômes qui étaient invités à se présenter devant ce centre. Oscar tousse depuis vendredi, de la fièvre, des courbatures. Il n'a presque pas fait la queue pour être testé, il en était même surpris.
Très efficace, oui. Je suis assez étonné d'ailleurs.
Pourquoi, c'est vrai?
Parce que ça fait depuis vendredi que je passe des coups de fil au laboratoire, que je vais les voir. Impossible d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Et là, j'arrive ce matin en me disant « bon, je vais essayer ». Et puis tout de suite, ils m'ont pris.
Ouais. Pour bien s'assurer que des personnes ne mentent ou n'exagèrent leurs symptômes, des médecins remontent les files d'attente et posent toute une série de questions. Les résultats doivent arriver dans 48 heures, c'est encore trop, mais dans une dizaine de jours, ce sera 24 heures, comme l'affirme Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Tout le sujet pour les labos, c'est de pouvoir prévoir les files de résultats qui arrivent sur leur plateforme et d'identifier ces tests prioritaires. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et je pense qu'on va en tout cas faire baisser significativement les délais avec une cible, mais une cible qui n'est pas à moyen terme, qui est à très court terme, de tenir ce délai de 24 heures.
Rappel important pour le grand public, l'accès aux tests dans ces nouveaux centres se fait exclusivement sur présentation d'un justificatif, une prescription médicale en cas de symptômes, un SMS de l'assurance maladie qui atteste bien que vous êtes cas contact, ou un justificatif de travail si vous êtes professionnel de santé.
Précision pour Europe 1, signé Victor Delande. Comme chaque lundi, en raison de la fermeture des labos, le dimanche, le nombre de cas détectés est en baisse, 5300 ces dernières 24 heures. En revanche, le nombre de décès, lui, continue de progresser, 53 morts supplémentaires depuis hier. Le protocole sanitaire dans les écoles allégé à partir de demain. Lorsqu'un enfant sera testé positif, la classe se poursuivra pour les autres élèves qui ne seront plus considérés comme cas contact. Des fermetures seront toutefois possible si 3 cas sont confirmés dans la même classe venant de familles différentes. Le préfet du Rhône a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures restrictives pour Lyon et sa région. Dès demain, les grands événements seront limités à 1000 personnes. Le port du masque obligatoire est étendu à 10 communes de la banlieue lyonnaise. Restriction également des visites dans les EHPAD. En revanche, bars et restaurants peuvent rester ouverts normalement. Pas de fermeture anticipée comme à Nice et Marseille. Ces nouvelles mesures un peu partout en France visent à éviter une deuxième vague et de potentiels reconfinement, une situation que connaît déjà l'Espagne. Plus de 800 000 personnes qui habitent les banlieues sud de Madrid ont dû dès aujourd'hui se confiner à nouveau. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant. En Espagne, ce reconfinement passe très mal car il concerne essentiellement les quartiers populaires déjà très touchés par cette crise sanitaire et économique.
Oui, effectivement, et à l'entrée de Vallecas, l'un de ces quartiers reconfinés, la police contrôle les véhicules depuis ce matin. On ne peut plus sortir du quartier sauf pour aller travailler ou en cas de force majeure. Paco, retraité, vit du mauvais côté de l'avenue. Il n'a pas le droit de se promener en centre-ville, une injustice selon lui.
Après avoir été enfermé plus de 100 jours à la maison, ils sont en train de me dire que je ne peux pas aller dans le quartier en face. C'est quoi ce foutoir? Pourquoi ils ne me laissent pas passer?
Pour les habitants, ce reconfinement ciblé ne sert qu'à masquer la gestion défaillante du gouvernement régional. Beaucoup y voient une forme de stigmatisation. Nous ne sommes pas des lépreux, lance loin un passant à la police. De surcroît, pour Inès, étudiante, ces mesures sont inefficaces dans un quartier où le télétravail est impossible.
On confine le quartier du Sud, mais les personnes doivent aller travailler dans le métro, dans le train, dans les bus qui sont avec beaucoup de personnes. Et ça ne résout pas le problème. On ne met pas des mesures en place pour vraiment freiner le virus.
Les habitants réclament plus de personnel soignant, plus de tests, un meilleur traçage des cas contacts. Dans ces quartiers très denses, on enregistre autour de 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est un record en Europe.
Henri de Laguérie à Madrid pour Europe 1. J'ajoute que l'Italie annonce ce soir vouloir imposer un test aux voyageurs venant de plusieurs régions françaises, dont l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Europe 1, le 22-22-30. Julien Pierce.
C'est ce qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu. Quelques jours après avoir demandé l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de trois magistrats du parquet national financier, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a annoncé aujourd'hui nommer une avocate à la tête de l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Il s'agit en l'occurrence de maître Nathalie Roret et c'est une première à plus d'un titre, Guillaume Bier.
Oui, première fois qu'une femme est proposée à ce poste, mais au-delà, c'est surtout la première fois qu'il ne s'agit pas d'une magistrate. Nathalie Roret est avocate, pénaliste, expérimentée, comme Éric Dupond-Moretti. C'est l'actuelle vice-bâtonnière du barreau de Paris. Ce choix, c'est un symbole fort, une volonté d'ouverture, souligne le garde des Sceaux.
L'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées. C'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. L'ouverture, c'est encore renforcer l'apprentissage chez les futurs magistrats d'une vraie culture du contradictoire. L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Pour les magistrats, c'est un véritable tournant à venir, une annonce fraîchement accueillie par leur syndicat, déjà très remontée après l'enquête ouverte sur le parquet national financier. Même l'École nationale de la magistrature a réagi par un communiqué dans lequel elle souligne que les avocats sont déjà des partenaires de l'ENM et elle rejette entre les lignes les accusations d'entre-soi et de corporatisme.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Entrevue aujourd'hui place Beauvau entre Gérald Darmanin et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Les deux hommes s'étaient ouvertement opposés cet été au sujet de l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le renfort de 14 policiers nationaux à Grenoble avant février 2021. Encore une débâcle pour le parti présidentiel aux 6 législatives partielles qui avaient lieu hier. Aucun candidat macroniste ne s'est qualifié au second tour. Démission ce matin du numéro 2 de LREM, le député de Paris Pierre Person. Il accuse son parti de ne plus produire d'idées neuves et veut créer un électrochoc. Un poney retrouvé mort dans son enclos dans le Tarn. L'animal a probablement été tué d'une balle dans la tête. Une autopsie doit être réalisée cette semaine. Depuis plusieurs mois, ces faits de mutilations parfois mortelles se multiplient partout en France. Plus de 150 enquêtes sont ouvertes. L'acteur Michael Lonsdale est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Il avait reçu le César du meilleur second rôle en 2011 pour sa performance dans Des hommes et des dieux. Plus de 60 ans de carrière dans le cinéma et au théâtre et un visage qui ne vous est sûrement pas étranger, cheveux longs, barbe blanche. Michael Lonsdale, c'était aussi une voix. Et quelle voix, Diane Chénouda ?
Ah oui, une voix chaude, vibrante, qui en disait long hein, sur sa sensibilité. On va l'entendre, cette voix de Michael Lonsdale, qui était aussi profondément croyant, au micro de Nikos Aliagas. Il faisait le parallèle entre sa foi chrétienne et son métier d'acteur.
Beaucoup de nos plus grands acteurs étaient très croyants. Et oui, c'est un métier de don de soi. Et on Absolument. Est chargé de redonner vie, corps et voix et regard à un personnage.
Et il en a joué des personnages, plus de 200 rôles au cinéma. On se souvient de Michael Lonsdale comme le moine dans Le Nom de la Rose et surtout, bien sûr, de son interprétation bouleversante de Frère Luc dans Des hommes et des dieux, l'un des moines de Tibérine assassiné.
J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
Michael Lonsdale a tourné avec les plus grands, Orson Welles, vous l'avez dit, François Truffaut, Buñuel, Spielberg, avec Gérard Oury dans Le Crime ne paye pas. On le retrouve aussi bien dans les films d'auteur que dans les super-productions hollywoodiennes. Il joue le méchant dans Moonraker, un James Bond, et avait même fait une apparition dans Hibernatus aux côtés de Louis de Funès.
Diane Chénouda, un mot de sport. Roland Garros a débuté aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tournoi principal, mais des qualifications à huis clos. Joueurs et joueuses moins bien classés vont tenter d'obtenir une place pour le tableau final. Certains ont d'ores et déjà été écartés, 3 parce que testés positifs, 3 parce qu'étant cas contact. Le tournoi principal débutera dimanche, à suivre évidemment sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. La météo de demain, Anissa Haddadi, le temps sera encore orageux.
Et oui, encore Julien, demain des orages, ça va gronder assez fort même par endroits. C'est en effet un temps agité sur la moitié sud du pays dès le début de journée, avec sur le massif central, les Alpes et le Var, des orages qui éclatent dès le matin. Partout ailleurs, au sud de la Loire, le temps est pluvieux. Et puis sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, là la journée commence avec des éclaircies. C'est un endroit encore qui reste sec au nord de la Loire, sur les Hauts-de-France, jusqu'à la Bretagne, des Pays de la Loire jusqu'à la Bourgogne. Prudence, nous aurons de nombreuses grisailles matinales, des brouillards assez bas qui vont très vite se dissiper pour laisser place à un très beau soleil dans l'après-midi. Sur la moitié sud, le temps reste encore agité et pluvieux avec des averses qui vont remonter jusque sur le centre Val de Loire, jusqu'à la Franche-Comté. Et puis sur les Hauts-de-France, les Ardennes, la région parisienne, là, c'est l'été qui se poursuit. Il fait très beau. Le soleil brille dans un ciel sans aucun nuage. Les températures, elles sont plus fraîches demain matin. Elles vont commencer à bien baisser pour jeudi, se retrouver en dessous des normales de saison. Alors demain matin, nous aurons 6 à 18 degrés du nord au sud. 6 pour Charleville-Mézières et 18 à Nice. Et puis dans l'après-midi, vous allez sentir la baisse avec seulement 17 degrés pour Aurillac. 21 à La Rochelle et Clermont-Ferrand. On avait plus de 30 degrés il y a encore quelques jours. 23 degrés à Biarritz et Toulouse. 25 à Nice et Lille, 27 pour Paris et Strasbourg et 28, la maximale est prévue demain à Nancy.
Merci beaucoup Anissa Dadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Eric Schulz, spécialiste de l'aéronautique et ancien directeur commercial d'Airbus. L'avionneur veut faire voler un appareil à hydrogène en 2035. Est-ce crédible? Réponse dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, lors de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine en forte baisse sur fond de nouvelles inquiétudes concernant la situation sanitaire internationale.
Oui, ça s'inquiète pas mal, même si on a limité la casse en fin de séance. Wall Street s'inquiète des mesures de reconfinement au moins partielles dans certains pays et ça donne donc une baisse quand même assez nette du Dow Jones, moins 1,84%, 27 147 points. On a surtout limité les dégâts du côté des valeurs de technologie, moins 0,13% finalement sur le Nasdaq, 10 779 points. Ce sont les banques qui reculent le plus nettement sur une vaste enquête anti-blanchiment qui fait des vagues dans le secteur. Morgan Stanley, moins 3,4%, JP Morgan, moins 3%, Citigroup, moins 2%, Goldman Sachs, moins 0,3%. Aux valeurs de technologie, donc, c'est plutôt résistant. On est même en hausse sur Tesla, à 449 $, alors que le groupe Tesla devrait faire des annonces demain concernant des avancées technologiques majeures sur le stockage de l'énergie. On a aussi Amazon, plus 0,2%, Apple, qui remonte de 3%, Microsoft, plus 1%, 202,50 $, qui va reprendre ZeniMax Media dans les jeux en ligne pour 7,5 milliards $, donc les opérations financières continuent à Wall Street. Le pétrole retombe assez nettement de près de 5%, 41 $ le Brent, le WTI est à 39,30 $, l'euro revient un cran en arrière, 1,1770 face au dollar.
La bourse de Paris a elle aussi commencé la semaine en forte baisse.
Oui, forte baisse effectivement, moins 3,74% quand même, 4 792 points sur le CAC 40, c'est la plus forte baisse accusée par le marché depuis la mi-juin. Les nouvelles craintes sanitaires ont pesé lourdement sur les secteurs les plus vulnérables, toujours les mêmes d'ailleurs, l'automobile, avec Renault qui rechute de 7%, Peugeot moins 5%, Faurecia moins 7% aussi, l'équipementier, l'aéronautique moins 7% avec Safran, moins 6,5% Airbus, les banques donc, tout le secteur a été secoué avec la Société Générale moins 7,5%, BNP moins 6% et le Crédit Agricole moins 5%, et puis donc le secteur pétrolier avec le baril de brut qui chute de près de 5%. Ça donne des titres en très forte baisse ce soir, Vallourec moins 11%, Technip moins 11% aussi avec CGG.
L'exception du jour, le titre Suez qui a terminé en hausse.
Toute petite hausse, mais une hausse quand même, plus 1,3%. 14,83 €, le spécialiste de la gestion des déchets Suez, donc qui fait l'objet d'une offre de reprise de Veolia à 15,50 €, est un petit peu le cas à part du moment. Le groupe Suez continue de s'opposer à toute tentative de rapprochement jugée hostile et contre-productive. Le marché, quant à lui, anticipe toujours une possible surenchère, en tout cas une contre-offre. Ça donne donc un titre en hausse ce soir d'1,3%, Suez à 14,83 €. Sur les autres places financières, ça baisse fortement partout en Europe. Le DAX, moins 4,3% en Allemagne. Bruxelles, moins 4,2%. Madrid, moins 3,4%. Milan, moins 3,7%. Et donc le CAC 40, moins 3,74%. 4 792 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com et à demain.
À demain.
22h et bientôt 21 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Eric Schulz, spécialiste de l'aéronautique et ancien directeur commercial d'Airbus.
Bonsoir Eric Schulz. Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes un ancien de chez Airbus, comme on dit, aujourd'hui consultant pour le monde de l'aérien. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler avions à hydrogène. Airbus a dévoilé aujourd'hui 3 concepts d'avions propulsés à hydrogène. Ils visent une mise en service en 2035. Déjà, vous qui connaissez bien l'aérien, c'est crédible des avions à hydrogène à cette date ?
Alors, je pense que c'est crédible, oui, ça me choque pas particulièrement la date de 2035. Je pense que le problème fondamental va être à la fois dans l'avion. Donc là, clairement, on a un petit peu de temps devant nous, mais c'est vrai que 2035 à une échelle de programme aéronautique, c'est assez court. Mais il y a aussi une vraie question d'infrastructure, parce que c'est pas seulement l'avion. L'avion, il va dans des aéroports, du carburant, il en faut dans les aéroports. Donc, je dirais que là où le challenge est vraiment très très grand, c'est pas seulement l'avion, c'est tout le reste.
Et parce que ce que vous dites, c'est qu'on pourrait très bien réussir à avoir le bon avion, mais que ça ne serve à rien parce que, par exemple, dans certains aéroports américains, on n'aurait pas suffisamment d'hydrogène pour le faire voler. Ce qui a été un des problèmes, par exemple, de l'A380, puisque pas beaucoup d'aéroports ont bien voulu s'équiper pour pouvoir avoir cet avion sur leur tarmac.
Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que c'est un vrai changement fondamental. Hein. Aujourd'hui, les aéroports, ça fait 50 ans, 60 ans que l'aviation commerciale a eu un essor très très fort. Et les aéroports se sont habitués à gérer de grosses quantités de kérosène. On a aujourd'hui, quand vous allez sur les gros aéroports, hein, Roissy par exemple, le kérosène arrive directement aux avions via des conduites souterraines. Si vous voulez, ça c'est toute une infrastructure qui demain matin sera complètement obsolète le jour où on voudra tourner la page et passer à l'hydrogène. Et cette infrastructure-là, elle demande des déploiements d'efforts énormes et des investissements massifs. Ce n'est pas seulement l'avion. L'avion, je dirais, il est portable. Donc un avion, par définition, ça se bouge. Une infrastructure aéroportuaire, ça se bouge quand même beaucoup moins. Donc voilà, c'est plus dans ce contexte-là que je dis le challenge de 2035. Je pense que techniquement, au niveau d'Airbus et au niveau des avionneurs, il y a un vrai challenge, je pense qu'il faut en parler. Il y a quand même quelques...
Oui, parce que là, le gros challenge, c'est quand même de réussir à produire de l'hydrogène propre pour pouvoir le stocker et le transporter à bord. Il y a 3 grands défis, produire, stocker et transporter à bord.
Voilà, vous avez raison. Donc si on prend ces 3 défis l'un derrière l'autre, produire l'hydrogène. Aujourd'hui, 96% de l'hydrogène qui est disponible dans le monde est produit à partir d'hydrocarbures. Donc dès lors qu'on ne change pas fondamentalement cette supply chain, on produira peut-être un avion propre, mais pour produire l'avion propre, il faudra polluer encore plus pour pouvoir produire l'hydrogène.
Mais là, c'est donc un des gros pans du plan de relance annoncé par le gouvernement qui veut mettre jusqu'à 7 milliards d'euros d'ici à 2030 pour que justement la France soit un des fers de lance de l'hydrogène vert et propre.
Oui, alors l'hydrogène vert et propre, il n'y a qu'une seule manière, en tout cas aujourd'hui, que je connaisse, c'est de le produire par électrolyse. Et donc ça demande des quantités d'électricité qui sont gigantesques. Donc ça veut dire que clairement, là encore, d'où va provenir cette électricité ? Est-ce que cette électricité provient du nucléaire et auquel cas on peut estimer qu'il est propre, en le mettant entre guillemets, mais il est propre ? Mais s'il provient de centrales à charbon, là encore une fois, on va produire de l'hydrogène dit propre pour faire des avions dits propres, mais avec une structure, si vous voulez, de supply chain qui au départ aura produit l'hydrogène de manière moins propre. Ensuite, il faut le stocker, il faut le transporter. Ça, c'est un vrai challenge à la fois pour les avions, hein, parce que un avion qui transporte de grandes quantités d'hydrogène, bah, c'est pas nécessairement trivial, hein, en termes de risque. Hein. Et puis ensuite, il faut le stocker dans les aéroports. Il faudra le faire, bien entendu, je dirais, avec une capacité mixte, parce qu'on ne va pas du jour au lendemain mettre tous nos avions à kérosène à la casse.
Mais c'est surtout que si je vous écoute bien, Eric Schulz, ancien d'Airbus, spécialiste du monde de l'aérien, pour le moment, Airbus est officiellement le seul constructeur d'avions embarqué dans cette aventure, puisque ni Boeing...
Non, je ne crois pas.
En tout cas, avec cet objectif si clair.
Avec cet objectif, oui.
Est-ce que cet avion ne risque pas, finalement, peut-être un peu comme le Concorde cette fois, d'arriver beaucoup trop vite ?
Non, je pense pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est que derrière Airbus ou derrière le monde de l'aéronautique, hein, les gens prennent le défi à bras-le-corps. Et bien entendu, il faudra résoudre ces problèmes d'infrastructure qui sont les problèmes vraiment fondamentaux de ce qu'il faut faire. En matière d'avions, Ce qui est vrai, c'est que, et en ce sens-là, je dirais, l'approche d'Airbus est une approche relativement concise, parce que en termes d'avion, en termes d'architecture, aussi bien des systèmes de l'avion et des moteurs, l'hydrogène est la transition la plus souple vers je dirais, une énergie propre. Donc, effectivement, pour aller le plus vite possible à une énergie propre au niveau de l'avion, l'hydrogène est probablement, la source la plus rapide. Alors, il y a une course qui est clairement engagée avec des gens qui ont des projets hybrides. Je pense que vous avez vu, Emmanuel, nos amis anglais qui développent un projet à part entière, d'un avion de 70 places qui volerait en hybride. Alors là, on n'est pas dans un 100% propre, on est dans un 65 à 70% propre, et il prévoit ça aux environs de 2028. Donc il y a une vraie course engagée. Il est possible d'ailleurs à la fin que une partie des avions dans le régional soit plutôt de l'hybride et que les avions plutôt gros porteurs passent à l'hydrogène, au moins dans une première phase. Mais pour moi, le calendrier d'Airbus est un calendrier ambitieux et il faut tous se féliciter de ça, parce que finalement c'est bien qu'une grande société comme Airbus mette un tel, je dirais, une ligne dans le sable en disant, ben moi en 2035 j'aurai un avion. La vraie question de mon point de vue aujourd'hui, c'est l'avion, il se développe pas juste au niveau de l'Hexagone, on fait pas des avions que pour faire du Paris-Marseille, et donc ça veut dire qu'il faut aussi arriver à engrainer l'intégralité du monde aéronautique vers un objectif comme ça. Ça veut dire notamment l'Union européenne, mais pas uniquement. Ça veut dire l'OACI, ça veut dire tout le monde. Parce que comme vous le dites, si l'avion arrive dans un aéroport où il ne peut pas refaire le plein, au final, on n'aura pas gagné grand.
Effectivement, ça ne permettra pas de faire beaucoup de vols. En tout cas, un grand merci pour toutes ces explications. Eric Schulz, vous avez été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes un ancien de chez Airbus, consultant pour le monde de l'aérien. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant. On va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Éric Dupond-Moretti et les juges, verdict sans appel, titre l'Opinion. On vous en parlait dans le journal. Le ministre de la Justice a choisi aujourd'hui une avocate pénaliste, maître Nathalie Roret, pour prendre la tête de l'École nationale de la magistrature. Et dans son discours, le garde des Sceaux n'y est pas allé de main morte, rappelle le quotidien. Les magistrats, Éric Dupond-Moretti, saluent bien sûr leur engagement et leur enthousiasme, mais constatent aussitôt leur force d'inertie, leur frilosité à moderniser institutions et les dérives d'une culture de l'entre-soi. Une charge brutale, frontale, mais aussi très calculée, écrit l'Opinion. Car ces derniers jours ont donné du grain à moudre au ministre. Notamment, le refus par l'ancienne chef du parquet national financier, Éliane Houlette, de répondre aux convocations de l'inspection. Une attitude qui a fait sortir Éric Dupond-Moretti de ses gonds. Ce sont des gens qui convoquent les Français tous les jours, qui leur demandent des comptes, qui exigent de la transparence et qui ne veulent pas répondre à un certain nombre de questions quand elles leur sont posées. Mais on marche sur la tête, s'indigne le garde des Sceaux. Ouest France s'intéresse à ces entreprises qui plantent des arbres pour compenser la pollution. Il y en a de plus en plus, or si l'intention est louable, leur efficacité pour lutter contre le réchauffement climatique fait débat, écrit Ouest France, car planter en monoculture ou au mauvais endroit, une forêt peut détruire des écosystèmes. On termine avec l'Alsace dont l'édito est piquant. Les LREM épine présidentielle, écrit Laurent Baudin, qui revient sur la démission aujourd'hui du numéro 2, mais aussi l'échec hier aux législatives partielles des candidats macronistes. À quoi servent les partis politiques en France ? C'est un échelon intermédiaire entre les citoyens et les institutions où s'exerce le pouvoir. Ils ont pour mission de faire vivre le débat d'idées de manière organisée dans le but de les mettre en application le jour où les représentants arrivent aux responsabilités. Eh bien, c'est parce que La République En Marche ne répond pas à ces critères que le parti présidentiel menace d'imploser, analyse Laurent Baudin. Voilà donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien, et vous ?
Mais écoutez, c'est le début de la semaine, donc en pleine forme.
Tant mieux. 3921 pour vous appeler et pour intervenir à tout moment dans votre libre antenne.
Exactement, et à tout à l'heure pour le flash à 23h.
À tout à l'heure.